Vision d'histoire.
Chers auditeurs et auditrices Radio-Galilée, bonjour, bienvenue à Vision d'Histoire. Mon nom est Martine Dumais, il me fait plaisir de vous accueillir comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir Mme Brigitte Collier, historienne, professeure au département d'histoire de l'Université Laval et directrice à Laval du SIEC. Bonjour Mme Collier.
Bonjour Mme Dumais.
Merci d'avoir répondu positivement à notre demande. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet bien d'actualité, l'enseignement de la religion à l'école au Québec entre 1900 et 1950. Je dis bien d'actualité parce qu'on en parle beaucoup et que quand on va s'intéresser au sujet, on va se rendre compte qu'il y a un aspect donc, de nostalgie parce que c'est un univers qu'on a connu, que vous allez nous décrire, donc entre 1900 et 1950, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on va découvrir ensemble. Je pense que les auditeurs et auditrices vont être fascinés. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous demander pourquoi et dans quel contexte vous êtes-vous intéressé à un tel sujet?
Alors, je dois dire que je n'ai pas attendu les questions d'actualité pour m'intéresser au sujet. En fait, dans toute ma démarche scientifique, dans un premier temps, je m'intéressais énormément, je dirais, aux pratiques marginales de la religion. C'est comme ça que j'ai travaillé sur des cultes thérapeutiques aux fontaines en Europe. Et j'avais un intérêt central qui portait sur le vécu religieux des laïcs. Donc, dans leur forme parfois déviante, mais aussi de plus en plus, je voulais savoir comment c'était structuré leurs pratiques, leurs croyances, à partir, je dirais, du bagage qui leur était livré par l'institution elle-même. Et donc, progressivement, je me suis rapprochée, je dirais, des normes en passant par une étape dans des études doctorales sur les confréries de laïcs, au Québec, de la Nouvelle-France au 20e siècle. Puis, je me suis arrêtée à la question de la formation que ces personnes avaient reçue par le biais de l'enseignement du catéchisme. Alors, vous voyez, c'est une lente évolution vers le cœur de l'enseignement, mais toujours en gardant cette idée fondamentale des mutations, des recompositions que les personnes, les sans autorité dans l'Église, ont toujours faites autour du corpus de croyances qu'on leur donnait.
Et actuellement, vos travaux portent notamment sur cet enseignement de la religion à l'école au Québec entre 1900 et 1950. Pourquoi ce cadre chronologique plus précisément?
Alors, en fait, le cadre de la synthèse que je voudrais publié l'année prochaine avec mon collègue et prédécesseur Nive Voisine, portera sur tout le 19e siècle jusqu'aux années 1960. Ici, pour vous, j'ai choisi de parler d'une étape qui me semble très importante dans toute la réflexion qui s'est faite bien avant les réformes qu'on a en tête aujourd'hui. Ce n'est pas un secret de dire que bien souvent, nos limites chronologiques remontent à la Révolution tranquille. Et avant ça, c'est le grand trou noir et on a l'impression que rien ne s'est passé. En fait, ce qui me fascine de plus en plus dans la recherche que je mène, c'est que justement, avant les années 60, il y a des Québécois, des Québécoises, des pédagogues qui ont réfléchi à cet enseignement de la religion qui, pour eux, comme pour nous depuis des décennies, ne produisait pas le résultat attendu. Donc, on va se retrouver, je dirais, des traits de l'actualité dans ce qu'on va pouvoir échanger aujourd'hui.
Et pour étudier un tel sujet, quelles sont les sources pour une historienne?
Alors, elles sont très variées, très importantes aussi en quantité, je dirais, qu'on a depuis les années pour lesquelles on a entrepris ce travail. On a accumulé des filières et des filières d'archives. On peut travailler à partir des dossiers personnels des pédagogues qu'on évoquera bientôt. On peut travailler évidemment avec toute la production des manuels. Des catéchismes, ce qu'on a déjà fait, ce qui a été publié dans les années 90. C'est des centaines d'ouvrages qui ont été utilisés dans toute l'histoire du Québec pour enseigner la religion. On peut travailler également à partir des dossiers du ministère de l'Éducation et de tous ses avatars antérieurs. Et également, ce qui est quand même un aspect assez passionnant pour la période la plus récente, on peut faire des entrevues avec soit les rédacteurs de manuels, soit tous ces gens qui ont connu cet enseignement sous différentes formes. Et ça, c'est un travail qui est fascinant, délicat d'analyse, parce qu'on a aussi nos grilles de lecture, une certaine construction mémorielle sur cet enseignement. Mais ça, c'est un aspect tout à fait fascinant et le contact humain est là à ce moment-là.
Est-ce que vous considérez que si on regarde cette période de 1900-1950 et possiblement avant comme après de toute façon, il y a un fil conducteur, si on simplifie beaucoup, qui est des tenants d'un statu quo avec des tenants de la réforme?
Il y a effectivement ce débat qui est récurrent entre des personnes, je dirais, qui, en ce qui nous concerne, sont intégrées, je dirais, à des démarches pédagogiques qui sont dans les grands courants de la pédagogie, entre autres de l'école active, et des personnes beaucoup plus craintives qui craignent que
qu'on perde quelque chose?
Qu'on perde quelque chose. C'est toujours l'idée de l'accumulation de connaissances. Hein, c'est, et la grande, le grand débat, nous allons y revenir, c'est celui de la mémorisation. Est-ce que la mémorisation est essentielle, je dirais, dans la démarche? Ou est-ce que c'est plutôt les façons de vivre, les façons de faire que l'on doit inculquer à l'enfant en particulier, on parlera beaucoup plus des enfants ici, pour que ces enfants, je dirais, intériorisent et découvrent leur univers spirituel, la relation avec Dieu. C'est vraiment au centre du débat, et vous voyez, c'est pas une nouveauté.
Tout à fait. Et donc, si on essaie de mieux comprendre le contexte, peut-être juste avant 1900, pour mieux comprendre ce qui va se passer par après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'enseignement de la religion à l'école au Québec avant 1900?
Bien, en fait, la frontière de 1900 est plus ou moins importante. Disons qu'à la fin du 19e, le système scolaire est structuré d'une façon à la fois complexe et en même temps, je dirais, définitive, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux secteurs d'enseignement. Le système est confessionnel et même biconfessionnel. Donc, les anglophones ont leurs écoles protestantes, les francophones ont leurs écoles catholiques. Hein, c'est sur la religion que s'est jouée la division. Alors, vous me direz, que fait-on des Irlandais catholiques, etc.? Ça, c'est une question qui sera à la fois débattue et ça donnera lieu à des organisations particulières, des reconfigurations du système. Mais fondamentalement, la division est faite. Le contact est faible entre les deux groupes. On a vraiment quasiment deux systèmes scolaires et des études récentes montrent qu'on pourrait dire qu'on en a trois, puisque les anglo-catholiques vont progressivement organiser leurs écoles. C'est la thèse de Mélanie Lanouette qui nous a beaucoup éclairé là-dessus. Donc, deux systèmes, un enseignement de la religion qui, pour tous, que ce soit catholique ou protestant, passe par l'école, ce qui n'exclut pas les formations dans les communautés, c'est-à-dire en paroisse et dans les différentes communautés protestantes, parce que du côté protestant, on va se donner un minimum de formation commune à l'école, mais la formation des différentes dénominations se fait dans les communautés en paroisse. Donc, c'est plus du côté catholique que va, étant donné qu'il n'y a qu'une seule forme acceptée, que va se développer donc un enseignement de plus en plus structuré à l'école.
Vous écoutez Vision d'Histoire, je suis en présence de Mme Brigitte Collier. Elle nous parle de l'enseignement de la religion à l'école au Québec au début du 20e siècle. Et justement, ce 20e siècle-là, Mme Collier, il vient changer les choses dans l'école du Québec.
C'est, et là encore, on est dans la ligne de toutes les réformes de la fin du 19e siècle, toutes les avancées, entre autres, des grands pédagogues européens, américains, qui remettent en question un enseignement trop livresque, basé sur la mémorisation. Et donc, dans bien des secteurs, on va s'interroger sur la façon de faire assimiler les connaissances, sur ce qu'on veut faire à l'école. Et je dirais, si on veut faire un peu grossièrement le tour des choses, c'est autour de toutes les nouvelles idées de l'école active que le système scolaire va se questionner. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que comme la religion est enseignée à l'école, elle ne va pas pouvoir rester, même si on dit que c'est la première des matières, elle ne va pas pouvoir rester à l'écart de ces questionnements. Et comme ça s'est fait aussi en Europe, où, par exemple, Maria Montessori a fait un catéchisme, cette interrogation-là s'est posée pour ces gens-là. On s'est dit, ben là, la matière qui est peut-être la plus difficile à intégrer à l'école, il faudrait peut-être lui permettre de se développer en utilisant de nouvelles méthodes. Donc, elle n'a pas pu rester à l'écart, tout comme on s'est interrogé même sur le volume du catéchisme et à certains moments, on déplorait que ce soit le manuel le plus laid de tous les manuels scolaires que les petits Québécois avaient en main, toujours abîmés, mauvais papier, ce qui répondait à une volonté démocratique, mais qui faisait que cet ouvrage-là était le moins attirant pour les enfants, alors qu'ils bénéficiaient d'autres ouvrages. Donc, c'est le système scolaire a finalement poussé à la réforme de l'enseignement de la religion.
Et vous venez de mentionner le catéchisme, qui a une place centrale. Certains de nos auditeurs et auditrices ne connaissent pas l'époque du catéchisme. Donc, pouvez-vous juste nous présenter cet élément si important pour l'enseignement au départ?
Alors, c'est un objet tout à fait particulier qui est un signe de modernité quand il naît au 16e siècle dans le cadre des grandes controverses religieuses. C'est un ouvrage qui se veut un condensé de ce que l'on doit savoir, de ce que l'on doit croire. Hein, c'est un ouvrage donc d'autorité, tout cela pour faire son salut. Ces connaissances sont organisées autour de questions et de réponses, comme suivant la bonne vieille méthode scolastique. Il doit être assez simple, les questions concises, parce qu'on l'a voulu, pas uniquement, mais dans les classes, ce sera cet ouvrage-là qu'on aura, on l'a voulu accessible aux enfants. Et je disais ouvrage de la modernité parce qu'il est, c'est l'une des premières productions de l'imprimerie de masse. Et on ne pouvait pas l'imaginer sur parchemin, cet ouvrage-là. Et fruit aussi d'une tradition plus ancienne, parce qu'on peut aussi bien le lire qu'en l'écoutant, l'apprendre par cœur. Donc, il est des deux mondes. Il est des deux mondes et il se maintient parce que, pour les évêques, c'est le livre d'autorité. Ils en rédigent, où il s'imprègne de différents ouvrages. Monseigneur de Saint-Vallier, en 1702, dans les premiers gestes qu'il pose, c'est de donner un catéchisme à la Nouvelle-France.
Et jusqu'au 20e siècle, vous citez dans un article à paraître le catéchisme catholique québécois de 1951 et l'ouvrage contient ce que nous devons croire, ce que nous devons faire, ce que nous devons avoir pour aller au ciel.
Alors, c'est peut-être celui-là qui fera le plus écho chez les Québécois. C'est le dernier qui soit sorti sous cette forme-là. C'était une forme qui était contestée depuis des années et des années, mais les évêques ne se sont jamais entendus sur lequel choisir et quel type de manuel prendre autre que celui-là. Donc, nombreuses questions-réponses pour, je dirais, le rendre plus agréable, quelques images qui ont été ajoutées dans la dernière version, mais c'est le dernier d'une série et qui va durer jusqu'au début des années 60. Alors, les catéchismes sont des ouvrages qui ont eu à la fois un succès et une durée de vie incroyable.
Et certains auditeurs et auditrices qui ont connu l'époque du petit catéchisme, comme on dit, ont marché au catéchisme. Qu'est-ce que ça voulait dire, marcher au catéchisme?
Marcher au catéchisme, ça voulait dire préparer soit la première communion du temps où elle se faisait vers 10-12 ans. Et vous savez qu'au début du 20e siècle, on a changé la date pour accepter que la première communion se fasse plutôt à 7 ans, à l'âge de raison. Le pape ne voulait pas que les enfants soient privés de ce sacrement trop longtemps. Et on se basait, du reste, sur des histoires très émouvantes d'enfants qui étaient décédés donc, et qui n'avaient pas pu communier. Et on estimait que le sacrement lui-même produisait un tel effet qu'on ne devait pas en priver les enfants. Donc, on a abaissé la date de la première communion, ce qui fait que la marche au catéchisme est devenue la marche à ce qu'on appellerait la communion solennelle, donc là encore vers 10-12 ans. Alors, c'était une période, je dirais, de parenthèse très agréable pour les enfants. D'abord, l'école. Et là, on voit combien l'école et l'Église sont liées à cette époque. L'école, dans ses règlements, indiquait bien qu'il fallait plus donner de devoirs aux enfants qui faisaient cette préparation sur un mois à peu près et qu'on devait les libérer donc pour qu'ils puissent aller à l'Église, suivre la préparation donnée par le curé ou un des vicaires de la paroisse. C'est arrivé aussi que le curé carrément se déplace dans les écoles pour faire cette préparation. Alors, c'était une période, une grande parenthèse agréable où les jeunes se retrouvaient entre eux. On a parfois, dans l'imagerie populaire, cru que c'était quasiment la grande marche qui était demandée aux enfants et on les imaginait partir de rang en rang pour se rendre à l'église, souffrant dans leurs sabots ou dans leurs chaussures. Mais en fait, en interrogeant des personnes, on s'est aperçu qu'il y avait tout un relais qui était pris par les familles. Et donc souvent, pour les enfants des rangs éloignés, c'était le temps de retrouver les cousins pendant un mois, hébergés dans les familles des villages, et c'était la fête. Alors, il ne faut pas imaginer que c'était souffrance tout le temps de marcher au catéchisme.
Madame Collier, le catéchisme dont vous nous avez parlé avant la pause musicale, il y en a eu un seul au Québec à la fois, je veux dire, qui était pour toute la province.
Oui, ça c'est une caractéristique, je dirais, ancienne, qui est assez particulière au Québec et qu'on peut interpréter de différentes façons, mais je pense que, étant donné le caractère minoritaire de notre société, les évêques, même s'ils avaient bien des chicanes à faire entre eux pour le choix du catéchisme, ont toujours préféré n'en retenir qu'un seul, qui serait valable pour l'ensemble des Québécois. C'est ce qui fait que nous avons eu une série. On n'a pas toujours eu le même catéchisme à enseigner au Québec, mais on s'en est toujours tenu à un catéchisme qui était le seul reconnu, officiel, donc autorisé par les évêques.
Et ce catéchisme-là va susciter certaines réactions. J'imagine qu'il va y avoir des désirs de changement, il va y avoir des critiques qui vont être exprimées à différentes périodes par rapport au catéchisme.
Et ça, ça remonte, c'est très ancien. Ce qu'on prenne au 19e siècle, à chaque production de nouveaux catéchismes officiels, on a des commentaires qui sont donnés, en fait, par les pasteurs, par les intervenants qui ont à enseigner ce catéchisme-là et qui doivent faire apprendre par cœur aux enfants, donc, les questions, les réponses. Et alors là, on est toujours devant le dilemme de connaissances qui sont hautement théologiques et dogmatiques à faire passer dans la tête d'enfants. Alors, jusqu'où simplifie-t-on? A-t-on le droit de simplifier? Ça a été l'enjeu de débats fort importants jusqu'au 20e siècle. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a été le débat central. Mais on a constamment des plaintes en ce sens, en disant, bon, les mots sont trop abstraits. Un enfant de 7 ans, finalement, apprend certaines définitions qu'il ne peut absolument pas comprendre. Et c'est vraiment là le problème, toujours ce débat entre les connaissances et puis, je dirais, le développement d'une aptitude à la vie de foi qui se bloque autour de cette question.
Et quel était le lien entre les différents catéchismes aux différentes périodes et les évangiles?
Bien, le lien est assez lointain. Disons que les enfants, généralement, abordaient les Écritures par le biais de cette matière, je dirais, connexe à l'enseignement de la religion, qu'est l'histoire sainte. Hein? Et souvent, la façon qu'on a d'expliquer un peu, je dirais même plutôt d'illustrer le catéchisme, c'est de raconter l'histoire sainte.
Et maintenant, on va passer, je dirais, à deux personnalités qui ont joué un rôle central et marquant dans la première partie du 20e siècle. Deux personnalités que vous mettez en valeur dans vos travaux de recherche. Un premier est Mgr Ross. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Ah, mais c'est tout un personnage, je dirais, dont il serait intéressant d'avoir, je dirais, une biographie scientifique poussée. C'est un personnage qui couvre en plus une période très, très importante. C'est quelqu'un qui est né en Gaspésie en 1869 et qui fait ses études au séminaire de Québec, sa théologie, qui est très ancré à Rimouski, qui sera principal de l'École normale de Rimouski, et qui, après avoir fait aussi des études à Rome, hein, il a le parcours le plus complet qui soit, principal de l'École normale de Rimouski, il rédige un manuel de pédagogie qui s'appelle « La pédagogie théorique et pratique ». Et cet ouvrage a eu un succès incroyable pendant plus d'une trentaine d'années. Jusqu'à la fin des années 1940, c'est l'ouvrage de référence dans l'apprentissage, la formation des futurs maîtres.
Au sens large, pas juste pour l'enseignement de la religion.
Pas juste pour l'enseignement de la religion. C'est quelqu'un qui met de l'avant le développement psychologique de l'enfant. Hein? Par ailleurs, c'est un pédagogue catholique, très conforme, je dirais, à ce qu'on attend de lui et d'un ecclésiastique, mais c'est quelqu'un qui insiste sur la nécessité, dans la formation des maîtres, d'introduire la psychologie de l'enfant. Et là, c'est ce qui fait, je dirais, tout l'apport de son travail. Pour lui, il faut partir de l'enfant, il faut connaître son univers avant de pouvoir lui transmettre des connaissances.
Donc, on parle de pédagogie active et de pédagogie qui prend conscience du jeune dans son développement.
Tout à fait. Et qui va insister sur le fait que on ne peut pas... un enfant a besoin de concret. Et un enfant n'a pas les mêmes intérêts à 6 ans qu'à 10 ans. Et donc, c'est aux professeurs, aux enseignants, de s'adapter, d'adapter leur enseignement à ces étapes de leur vie.
Et il est responsable, je crois, d'une formule, une très belle formule que vous mettez d'ailleurs en évidence dans vos travaux. C'est « une pure formule est à jamais incapable de sauver une âme ». Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là exactement?
Alors là, c'est une formule que l'on trouve dans le programme de l'enseignement primaire qu'il a rédigé. Il a été concepteur de ce programme en 1923. Et alors, pour vous donner une idée quand même du personnage, Il avait intitulé son programme « Une école pour la vie », hein, 1923. Et après, on me parlera du conservatisme de la société. Je ne vous dis pas qu'il fait l'unanimité, on va le voir, mais c'est assez fascinant de voir ces expressions-là déjà en cours, alors qu'on a l'impression qu'on les a inventées dans les années 60, ces expressions-là. Et c'est effectivement cette formule, une pure formule est à jamais incapable de sauver une âme, c'est une expression qu'il emploie à la fois dans les directives générales du programme pour lutter contre la mémorisation. En disant, la mémorisation générale de toute matière, en disant un instituteur, un professeur n'est pas là pour faire apprendre par cœur les manuels qui sont à sa disposition aux élèves. Ce n'est pas comme ça qu'on formera des bons citoyens, des personnes intelligentes. Et il a un paragraphe complet consacré à l'enseignement de la religion en disant encore plus pour cette matière. S'il y a une matière qui ne se prête pas à la simple mémorisation, c'est celle-là.
On parle des années 20. Hein?
On parle des années 20, on parle d'un programme qui est mis en place en 1923. Et pour lui, c'est essentiel parce que pour lui, il faut que les enfants vivent de leur foi, vivent des connaissances qu'ils acquièrent au catéchisme. Et il insiste énormément sur le fait que les instituteurs doivent être, je dirais, des témoins, des modèles de l'enfant, et que les enfants, par la suite, deviennent aussi des modèles qui se placent, je dirais, dans la ligne, dans les pas, en particulier du Christ, dont ils auront appris la vie. Et je dirais les règles aussi dans leur leçon.
Madame Brigitte Collier, on arrive déjà à la fin de cette première émission. Le temps passe très rapidement. Merci à Jonathan Martin pour la mise en onde, Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une seconde émission en compagnie de Madame Brigitte Collier.